grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Xavier Bertrand, président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bonjour Xavier Bertrand.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc pris les rênes de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie il y a 2 mois et vous êtes confronté à de nombreux défis, notamment le chômage, 13% dans votre région. Vous avez promis 60 000 emplois d'ici septembre. Nous parlerons de cette promesse. Et puis, autre sujet d'actualité qui vous concerne directement, c'est la situation des migrants cette semaine. La justice a décidé une évacuation partielle du camp de Calais. Vous nous direz si ce n'est pas déplacer le problème que cette décision de justice. Et puis, nous en viendrons bien évidemment à la loi El Khomri, la loi sur le travail. Est-ce que c'est une bonne loi? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que vous la voteriez? Et puis, politique, primaire à droite, 8 candidats en lice cette semaine avec Bruno Le Maire. Est-ce qu'il est candidat du renouveau, Bruno Le Maire? Est-ce que la compétition est bien partie? Nous parlerons de tout ça dans cette émission. Et pour vous interroger à mes côtés, Guillaume Roquette du Figaro, bonjour, et Christophe Jacubicine de TF1, LCI. Bonjour. Et puis en fin d'émission, c'est une tradition dorénavant depuis la rentrée. Et ben Benoît Galeret de TF1 LCI nous rejoindra pour nous dire ce qu'il en est des réactions sur Internet, sur Twitter, des internautes. Bonjour Benoît, vous nous rappelez comment les internautes peuvent réagir au grand jury?
Bonjour, ben c'est tout simple, il faut un compte Twitter et utiliser un mot-clé, un seul, le grand jury tout attaché. N'hésitez pas à réagir, hein, surtout à me poser vos questions, je veille, je surveille tout ça et puis je viendrai en fin d'émission en effet vous lire les plus pertinents. À tout à l'heure.
À tout à l'heure Benoît, donc hashtag le grand jury. Xavier Bertrand, première question, elle est d'actualité. Le salon de l'agriculture vient de s'ouvrir. Hier, il y a eu des violences au salon. Il y a eu un président de la République chahuté, hué. Est-ce que vous condamnez ces violences?
Personne ne peut être heureux de voir le président de la République siffler, huer, insulter. Parce que c'est la fonction présidentielle. Et ces images, elles ne tournent pas en boucle sur nos télévisions et sur nos radios nationales. Elles font le tour de l'Europe, le tour du monde. Mm-hmm. Et donc, ce n'est pas bon pour l'image de la France.
Alors, qui est en cause? Est-ce que le ministre de l'Agriculture est à la bonne place? Est-ce que c'est une question de personne? Certains agriculteurs le disent. Xavier Belin, parfois, l'évoque. Est-ce que sa double casquette de porte-parole est aussi un problème? Est-ce que c'est un problème de personne?
Ils ont le sentiment, nos paysans, ils ont le sentiment d'être abandonnés par le gouvernement actuel, c'est vrai, mais aussi, disons les choses franchement, par les politiques depuis bien longtemps, qui font le tour du salon de l'agriculture en se faisant prendre en photo avec les vaches, avec d'autres races animales. Et puis, en définitive, il n'y a pas grand-chose qui se passe.
Mais est-ce qu'en définitive, la faute de la France ou de l'Europe, Xavier Bertrand?
Attendez,
Manuel Valls en a parlé.
Je vais juste vous
semaine.
Répondre. Parce qu'en définitive, la politique, c'est bien souvent une politique des villes. Ce n'est plus une politique des champs. Et d'une certaine façon, le Parti socialiste porte peut-être une responsabilité, car on a davantage un socialisme des villes que des campagnes. Et donc, comprendre le malaise paysan, c'est pas si facile que cela si l'on voit les choses uniquement de Paris. Il y a ensuite une responsabilité européenne, mais les deux sont liés. Il faut que la France, elle se fasse entendre à Bruxelles. La France, c'est pas n'importe quel pays. La France est un pays moteur clé en Europe. Et franchement, si la France est aux abonnés absents sur la scène européenne, il ne faut pas s'étonner que l'Europe, avec en plus un commissaire hyper libéral,
trop libéral,
bien sûr, qui ne veut absolument pas de régulation, très franchement, derrière ça, il ne faut pas s'étonner que l'Europe les laisse mourir.
Si la France est si peu active en Europe, c'est peut-être parce que les demandes de la France sont contradictoires avec les principes mêmes de l'Europe. C'est-à-dire que les éleveurs français veulent une meilleure protection, mais c'est contraire à la libre concurrence. Ils veulent un prix minimum, mais là encore, c'est contraire aux règles libérales.
Alors, disons les choses franchement, la régulation, elle n'est pas interdite au niveau européen. C'est juste le commissaire européen qui, lui, n'en veut pas. Mais au bout d'un moment, il faut savoir comment s'est bâtie la politique agricole commune. On a aujourd'hui, on voit bien, un marché mondial qui ne fonctionne plus. Ça, c'est une chose. Alors, on ne peut rien faire? Alors, dans ces cas-là, il faut arrêter de faire de la politique, il faut arrêter d'avoir des institutions européennes. C'est justement le rôle que de protéger quand ça va mal. Est-ce que c'est un principe assurantiel, si vous voulez? Mais là, en matière de régulation, il y a des choses à faire. On est très loin d'une politique agricole
Christophe
commune idéale. Très, très loin de
mais
ça.
Justement, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce que vous rechercheriez si vous étiez aux commandes notamment de l'agriculture? Est-ce que c'est une crise parce qu'on a changé de modèle en Europe, qu'on ne régule plus, qu'on ne garantit plus les prix, qu'on n'a plus de quotas?
Ou est-ce en partie, oui.
Ou est-ce que c'est parce que la France n'a pas su se moderniser comme l'ont fait, par exemple, l'Allemagne ou les Pays-Bas, avec des fermes gigantesques, des exploitations regroupées? C'est quoi la nature de la crise qu'on traverse aujourd'hui?
Vous avez raison en évoquant ces deux sujets. Mais le problème aussi, c'est que depuis des années, on fait des plans d'urgence. Et en définitive, on aide à faire face à une crise et on ne soigne pas en profondeur. La première des choses, c'est que c'est vrai que pour le politique, je le vois en tant que président de région, nous avons mis en place dès février un plan d'urgence pour les éleveurs. Je sais bien que ça n'est pas suffisant, mais que ça permet en
tout cas... Ça répond pas au problème structurel que j'évoquais. Ça répond au problème de court terme et c'est nécessaire.
Mais déjà, c'était le rôle de l'État. On l'a fait avant l'État parce que moi, je voulais qu'on permette à nos éleveurs de traverser ces mois difficiles en attendant qu'il y ait des solutions d'ensemble pour l'agriculture présentées par l'État.
Attendez,
j'aurais juste bien répondre à Christophe.
Vaches, quelque chose de très cuisine. Concret. Ça va dans le sens de
ce que
vous
dites,
Christophe.
Est-ce que vous êtes favorable qui fait aujourd'hui le malheur des éleveurs?
Mais ça fait le bonheur des Allemands, les grandes exploitations.
Est-ce
avec
que vous êtes pour cette concentration?
Attendez, j'aurais juste savoir à quelle question je réponds.
C'est la continuité. Est-ce que c'est la continuité? Est-ce
vous me posez une question. Ça n'est pas la ferme des 1000 vaches qui fait le malheur des éleveurs de Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et la ferme des 1000 vaches. En Allemagne, ce serait une petite ferme.
C'est vrai.
Parce qu'elles vont beaucoup plus loin. Est-ce que le modèle agricole familial est condamné? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il y a par contre des regroupements, des associations entre paysans à faire? Ça, c'est tout à fait possible.
Ce que vous dites, c'est que pour que le modèle familial puisse continuer à vivre, il faut un minimum de régulation. On ne peut pas complètement aller vers un modèle à l'allemande, par exemple.
Il faut d'autres choses. Il faut qu'il y ait une régulation au niveau européen, ou alors l'Europe ne sert plus à rien en matière agricole. Et puis ensuite, il faut des solutions franco-françaises. J'ai beau tourner le problème dans tous les sens, tant que vous ne pouvez pas avoir des résultats très efficaces sur les prix, là, dans ces conditions-là, vous devez jouer sur le prix de revient, sur le coût de revient.
Comment faire remonter ces prix?
Là, le politique peut jouer un rôle. C'est ce que nous allons faire, nous, au sein du Conseil régional, avec une politique radicalement nouvelle, pour permettre justement d'aider à la mise aux normes, à la modernisation. Et nous avons cette compétence, parce que ce sont les conseils régionaux qui gèrent ce qu'on appelle le deuxième pilier de la PAC.
Ça, c'est pour baisser les coûts.
Oui, mais il faut aller plus loin pour l'État. Je plaide maintenant pour des territoires francs, pour des zones franches rurales agricoles, pour que l'on puisse faire comme c'est le cas dans des grands ensembles urbains.
Ça veut dire quoi exactement, Xavier, dans des zones franches? On supprime jusqu'à une année blanche de cotisation sociale?
Non, ce n'est pas une année blanche. C'est des années blanches à la suite. C'est-à-dire que pendant un certain temps, un certain nombre d'années, pas de charges fiscales, pas de charges sociales pour qu'ils s'en sortent.
Ça, c'est légal au regard du droit européen? On ne va pas nous dire concurrence déloyale?
Nos zones franches urbaines existent, sauf que dans les zones franches urbaines aujourd'hui, eh bien, il y a l'exclusion des activités agricoles parce que vous avez bien évidemment pas d'agriculteurs au cœur des cités, mais je vois moi dans ma ville de Saint-Quentin, il y a une partie de la zone franche urbaine où il y a des agriculteurs, ils ont été exclus. Si vous ne mettez pas en place ces territoires francs où il y a des exonérations fiscales et sociales, vous continuerez à voir mourir les agriculteurs.
Alors, certains pourraient... Combien d'années, dites-nous précisément combien d'années franches vous souhaitez?
Attendez. La première des choses, c'est que si je suis en charge de ces sujets-là au niveau national, je voudrais qu'il vous serait que ce soit ad vitam aeternam tant qu'on n'a pas trouvé de solution sur la régulation des prix.
Baisse définitive des charges.
Oui.
Dans le cadre d'une loi, ça doit se faire dans le cadre d'une...
Bien sûr. C'est territoire franc, mais je voudrais aussi autre chose dans ces territoires francs. C'est qu'il y ait également un recul de toutes les normes, franco-françaises. Alors qu'on ne nous dise pas...
Et européennes.
Oui, mais non, alors attendez. Les normes européennes, oui, mais il y a hélas un génie français dont je me passerai bien, qui consiste à compliquer encore les choses au niveau national. Quand vous avez notamment le traitement, la gestion du fumier, eh bien, en France, on va avoir une nouvelle réglementation qui va imposer d'avoir de nouveaux bâtiments de stockage, quand dans certains pays voisins, comme la Belgique, si vous diminuez le taux de nitrate, vous n'avez pas besoin de construction.
Ça, ce sont les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture qui font du zèle.
Oui. Et avec en plus, tenez-vous bien, une différence d'interprétation d'application entre les régions, entre les départements.
Donc c'est Bruxelles dont vous dites qui est visé.
Je vous dis justement, Bruxelles complique la vie, c'est vrai. Mais la France complique aussi la vie des agriculteurs. J'ai obtenu dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie que se tienne, normalement à la fin du premier trimestre, un groupe de travail permanent, conseil régional, syndicat agricole et l'État, pour que le préfet de région puisse faire appliquer les normes de la même façon dans les 5 départements de la grande région. Ça ne coûte pas 1 euro, mais ça permet tout simplement qu'on arrête de rajouter une couche française au millefeuille européen.
Vous avez parlé de cette idée de territoire agricole zone franche au ministre de l'Agriculture en charge, Stéphane Le Foll?
Non, je ne l'ai pas encore rencontré. J'en ai parlé en premier aux responsables agricoles, aussi à des agriculteurs que j'ai rencontrés sur le terrain, parce que leur problème, on leur fait une année blanche, on leur fait une aide d'urgence. Ça ne suffit pas. Ils vous disent, on ne veut pas, nous, on ne veut pas toucher des subventions. On demande juste à pouvoir être payé en fonction de ce que l'on produit. Le problème français n'est pas un problème de productivité, c'est un problème de compétitivité. Et là, ils n'arrivent pas à vendre au prix qu'il faudrait. Et en plus, les paysans sont les seuls qu'on oblige à violer la loi.
Mais ce problème
la
de
vente à perte est interdite en France. Eux, tous les jours, pour les producteurs de lait, pour les éleveurs, tous les jours, on les oblige à vendre à perte. Et personne ne dit
ce problème de compétitivité, tous les agriculteurs l'ont. Alors pourquoi réserver à certains d'entre eux, dans des zones franches, des baisses de charges?
Alors, si vous faites dire qu'il y a de grosses exploitations céréalières, tant que les prix permettent de tenir, qui n'en auraient pas besoin de la
donc
même façon.
Donc ce serait plutôt les petits paysans, ce serait plutôt par catégorie que par région, alors ?
Écoutez, on peut très bien l'imaginer par territoire, donc par région, mais c'est la même chose aujourd'hui pour les zones franches urbaines. Vous avez une différence en fonction des revenus. La différence existe aussi aujourd'hui. Les exonérations ne sont pas à 100%, elles sont avec
c'est
des plafonds.
C'est pas pour les céréaliers, pour faire court.
Oui, mais attendez, critiquez pas les céréaliers.
Je critique pas.
Parce que les céréaliers, pendant quelques années... Quand le... Non, mais en Nord-Pas-de-Calais et Picardie, vous avez toutes les agricultures. La région est vraiment à l'image de ce qu'est la France. Il y a des herbagers de tirage, il y a des grandes plaines céréalières dans le Soissonnais. Sauf qu'il y a quelques années, les prix à l'hectare, à la tonne, étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Et on a bien souvent tendance à mettre parfois tous les agriculteurs dans le même sac, ou alors parfois à donner l'impression que certaines professions sont mieux servis que d'autres, ça ne dure jamais à cause de la volatilité des prix et parce qu'il y a un marché mondial qui ne tient plus.
Pour terminer sur ce dossier, les négociations sont libres entre industriels et distributeurs depuis 2008. Est-ce que vous êtes pour qu'il soit à nouveau, que ces négociations soient encadrées, que l'État y ait un rôle plus important?
Oui, clairement.
Comment?
Je viens de vous le dire à l'instant. Aujourd'hui, les seuls qui sont obligés de vendre à perte, ce sont nos paysans. Personne ne dit rien. On les laisse se faire étrangler. Mais attention, il faut aussi y voir clair.
Vous demandez à la grande distribution.
À la grande distribution et puis aussi aux transformateurs.
Mais ça fait 20 ans qu'on leur demande à la grande distribution, aux transformateurs, de garantir des prix aux agriculteurs, de ne pas les pousser à vendre à perte. Ça fait 20 ans qu'on entend la même chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'on n'a pas essayé avant?
Il faut commencer par changer de commissaire.
On va laisser répondre.
Parce que vous savez que la Commission européenne est contre ce type
de
mesure.
Oui, la Commission européenne, elle est contre. Mais la Commission européenne, je crois qu'elle ne tient pas comme nous à garder autant de paysans que nous avons. Je ne suis même pas sûr qu'ils ne soient pas prêts, eux, à accepter d'avoir du lait produit par les Chinois ou par les Russes. Moi, je préfère servir à mes enfants un lait qui est produit par des paysans
et qu'est-ce qu'on
français
fait alors
et de la région.
Qu'est-ce qu'on fait alors pour garantir justement ces prix au-dessus du prix de revient?
C'est pas si simple que ça, parce que la grande distribution a un peu un génie pour contourner les lois, ou alors pour
arrière,
les adapter à sa
des
façon.
Globales.
Et si le politique ne rentre pas dans le détail, eh bien, pardonnez-moi, il se fait avoir. Quand on a voté la loi LME en 2008, tout le monde pensait que c'était génial parce que ça permettait d'améliorer le pouvoir d'achat. Et en fin de compte, qui s'est fait étrangler? Les paysans, même pas les intermédiaires, le paysan. Donc que l'on mette le prix de production, je pense que ça a du sens. Mais je crois que cette loi, il va falloir sacrément l'étoffer et peut-être demander, notamment aux premiers concernés, c'est-à-dire nos paysans, de leur demander aussi leur avis. Parce qu'ils ont des idées. Mais ils ne sont jamais écoutés.
Le premier concerné,
jamais.
C'est aussi Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous trouvez qu'il fait ce qu'il faut? Est-ce qu'il est suffisamment à Bruxelles?
Vous m'avez demandé tout à l'heure. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès de monsieur
Le Foll. Parce que les agriculteurs en parlent.
Et demandez aux agriculteurs ce qu'ils en pensent. Ils sont mieux placés que moi pour vous dire ce qu'ils pensent de leur ministre.
Alors, on va venir sur la loi El Khomri. Mais juste avant, puisque nous parlons de terres agricoles, il y a Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu encore des manifestations hostiles à ce projet. Est-ce que vous y êtes favorable d'une part? Et d'autre part, est-ce que vous trouvez que la méthode de la consultation, du référendum annoncé par le président de la République, est la bonne?
Oui, je suis favorable à cet aéroport. Oui, les règles de droit ont été respectées et je ne comprends pas comment on permet aujourd'hui qu'il y ait, comment on les appelle, des zadistes.
Oui. Vous demandez leur évacuation,
bien
Yannick
sûr,
Bertrand? Bien immédiate
sûr. On est en France. On n'est pas dans un pays où on bafoue les règles de droit comme cela. Et donc, très clairement, il faut qu'on mette un terme à cette situation. Maintenant, le président de la République, pour essayer de préserver son remaniement, enfin, le bricolage du remaniement, à essayer de s'en sortir pour faire entrer les Verts et avoir M. Hérault en disant qu'il y aura un référendum dont on ne sait même pas s'il est valable. Tout ça, c'est ridicule.
Donc,
on
vous
est dans
demandez
la cinquième
une évacuation.
Dans la cinquième puissance mondiale.
Éventuellement.
Et on laisse le droit bafoué.
Avec les forces de l'ordre, avec le recours aux forces de l'ordre, si nécessaire.
Évidemment. Le risque, ce sont les violences, comme on les avait vues au barrage de Sivens où il y a eu un mort.
Oui, mais encore une fois, alors parce que on n'oserait pas faire respecter l'état de droit, la France ne ressemblerait plus au pays qu'elle est, qu'elle doit être. Au bout d'un moment, c'est à cause, excusez-moi, de cette peur d'agir, que l'on pense que la force va forcément créer des troubles, que l'on baisse définitivement les bras. Allez expliquer à tous les Français qui nous écoutent et qui nous regardent, à qui on ne passe rien, eux, leur dire que certains peuvent bafouer la loi et le droit et qu'eux, ils n'ont pas le droit. Vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? C'est l'idée même de République qui part en faillite. Et il faut faire attention, ça fait depuis très longtemps, trop longtemps, qu'on a, par peur des réactions, par peur des emballements médiatiques, qu'on a cessé de faire respecter l'autorité dans notre pays. Bien souvent, bien trop souvent.
Donc Manuel Valls a raison, lui, puisque c'est l'option qu'il propose, de faire évacuer.
Sauf que lui est Premier ministre, lui, il n'a pas le pouvoir d'agir, il a le devoir d'agir.
Et donc vous signalez qu'il y a des incohérences au sein du gouvernement sur cette question?
Ah mais ça, on peut passer toutes les missions si vous voulez pointer les incohérences.
Alors vous y viendrez peut-être tout à l'heure. Nous en venons au projet de loi de réforme du Code du travail. Demain matin, vous participez, je crois, à une réunion au ministère du Travail avec les présidents de région sur les 500 000 formations.
Donc demain,
vous
après-midi,
êtes,
oui.
Demain après-midi, donc vous êtes au cœur de ce sujet-là. Est-ce que la loi en l'état, vous la voteriez?
Oui, mais elle est quand même déséquilibrée.
Dans quel sens?
Il y a, à mon sens, des garanties pour les salariés qui manquent.
Ça, vous dites ça parce qu'une majorité de Français est défavorable maintenant au projet de loi?
C'est quand même un méchant et mauvais procès que vous me faites. J'étais c'est ministre question, du Travail simplement. Et de l'Emploi. Je vois que vous avez un sourire, donc vous ne pensiez peut-être pas ce que vous,
non, mais
ce que vous m'avez
que,
demandé.
Parce que je
suis ici avec des parlementaires.
De dire qu'effectivement, vous trouvez
Alain
que la loi d'équilibrer
Camille
de
Rocacera et Gérard Cherpion, qui connaissent ces sujets sur le bout des doigts, qui j'ai beaucoup travaillé quand j'étais ministre du Travail et de l'Emploi. Non, j'ai toujours eu à cœur, quand il y avait des textes, qu'ils soient équilibrés. Des avancées pour les employeurs qui recrutent, mais aussi des avancées pour les salariés. Là, les avancées pour les salariés, on ne les voit pas. Où on les voit.
C'est-à-dire qu'il y a
pour être clair,
un motif de licenciement
je voterai, large, je voterai ce texte. Mm-hmm. Je voterai ce texte si j'étais parlementaire, mais je déposerai un certain nombre d'amendements et notamment deux qui me semblent vraiment importants.
Lesquels?
La première avancée concerne les salariés. Il faut se poser la question. Quand vous êtes salarié en CDD, est-ce que vous êtes salarié à plein avec les mêmes droits que les autres salariés en CDI? La réponse est claire, c'est non. Quand on n'est pas salarié en CDD, on ne sait pas que si on veut acheter une voiture, c'est impossible. Votre banquier ne vous fera pas crédit. On ne sait pas que pour acheter un appartement ou une maison, n'y pensez même pas. Tant que vous n'aurez pas le CDI, vous ne serez pas logé à la même enseigne.
En quoi consiste l'amendement du coup?
Une solution, c'est pour mettre en place enfin le contrat unique. Monsieur Macron, dans le JDD aujourd'hui,
il
tourne autour du pont, mais il y va.
Mais
bien sûr que non. Qu'il le fasse. Il est ministre
il
de l'économie et des finances.
Que les CDD ne garantissent pas les mêmes droits.
Mais le problème est simple. Mais moi, je suis aujourd'hui président de la région de Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Il est ministre de l'économie et des finances. Lui, encore une fois, il a le pouvoir de le faire. Il a le devoir de mettre ses idées en conformité avec ses actes. Mais qu'il le fasse. Le contrat de travail unique, qui garderait quand même à côté les contrats de travail intérimaires, permettrait d'en finir avec cette barrière, cette cassure entre CDI et CDD. Aujourd'hui, vous avez à peu près 80% des contrats qui sont des CDI. Mais parmi les nouveaux contrats, plus de 80% sont des CDD. Des salariés qui se disent, qui me disaient l'autre jour encore à Lille, on est des salariés un peu de seconde zone, personne ne parle de nous. Mais ça, c'est le
Guillaume
premier point. Le premier point. Il y a un deuxième point, c'est
donc
que...
Un deuxième amendement que vous
sur le
si
pouvoir
vous
d'achat des ouvriers, le pouvoir d'achat des ouvriers, c'est le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées.
Ce n'est pas les amendements, c'est une nouvelle loi que vous proposez, là, un contrat unique.
Écoutez, ça peut tout à fait trouver sa place. Il y en a un qui concerne le droit du travail et aussi la vie quotidienne des ouvriers, du monde du travail, et le deuxième qui concerne le pouvoir d'achat des ouvriers
je
du monde du
au
travail.
Contrat unique. Le contrat unique, en fait, c'est un contrat donc, qui remplacerait CDD et CDI et qui créerait des droits supplémentaires, je suppose, au fur et à mesure que le salarié acquiert de l'ancienneté dans l'entreprise. C'est a priori une bonne réforme, mais les syndicats sont contre, parce qu'ils disent que cela revient à enlever des droits et des protections à ceux qui sont embauchés en CDI et qui aujourd'hui bénéficient tout de suite d'un maximum de protection, voire d'un excès de protection pour le MEDEF.
Je ne veux pas d'un système, et jamais je ne voudrais d'un système, où les salariés sont des Kleenex que l'on jette. Nous ne sommes pas la Grande-Bretagne, nous ne sommes pas les États-Unis. Ça n'est pas ma conception de la politique, ça n'est pas ma conception du droit du travail. Les syndicats, aujourd'hui, s'intéressent en priorité, disons les choses clairement, aux salariés qui sont en CDI à temps complet.
Donc ils sont rétrogrades.
Demandeurs d'emploi, aujourd'hui, ça n'est pas le sujet principal de la société française, hélas. Les gens qui sont en CDD, en emploi précaire, ça n'est pas la priorité de la société française. C'est une erreur. Et il ne faut pas s'étonner d'avoir beaucoup de nos concitoyens qui se sentent rejetés, exclus. Le contrat unique est un CDI.
Xavier Bertrand.
Un CDI. Juste... Et ça veut dire qu'au fur et à mesure, plus vous avancez, plus vous avez d'ancienneté, plus vos droits s'améliorent. Mais si je peux me permettre, le droit français, le droit du travail, c'est déjà cela. Plus vous avez d'ancienneté, plus vous avez droit à une indemnité de licenciement importante, une indemnité de retraite plus importante. La seule chose, c'est que ce contrat de travail unique, ça n'est pas mon idée. Jean Tirole, Nobel d'économie, a eu cette idée avant moi. Mais sauf que tout le monde a félicité Jean Tirole. Bravo pour votre Nobel d'économie. Mais quand il s'agit d'appliquer sa loi, tout le monde est aux abonnés absents.
Ce que vous nous dites à ce stade, Xavier Bertrand, c'est qu'il y a trop de flexibilité et pas assez de sécurité pour les salariés.
Il faut de la flexibilité, entendons-nous bien. Il nous faut davantage de flexibilité. Voilà pourquoi je voterais ce texte si j'étais parlementaire.
Mais je veux en face... Même s'il n'y a pas les deux amendements dont vous
voulez parler. Oui, je le ferai parce qu'au bout d'un moment, il faut regarder ce qui constitue une véritable avancée. Et pour qui surtout ? Pas pour les très grands groupes, pour les petits patrons. Parce que, en définitive, il y a aujourd'hui, ce qui fait embaucher, c'est en premier le carnet de commandes. Est-ce qu'on a du travail à donner ? Mais seulement, il y a d'une certaine façon aujourd'hui une réticence à embaucher parce qu'on sait pertinemment que s'il faut débaucher, même dans la mort dans l'âme, ce sera compliqué. Et pourquoi débaucher ? Le jour où il n'y a plus de carnet de commandes, ce que ne permet pas assez le droit du travail aujourd'hui. Vous recrutez quelqu'un pour installer un logiciel dans une entreprise. Ça va prendre un certain temps. Vous pouvez le faire avec un CDD. Mais seulement, vous ne savez pas s'il faudra plus ou moins de temps. Là, avec le contrat unique, vous pourriez prévoir dès le début les cas de fin de contrat. Et encore une fois, on éviterait d'avoir de la judiciarisation, d'avoir les prud'hommes. Ça serait de la vraie souplesse.
On va écouter le Premier ministre qui était notre invité mardi matin. Et il lançait un appel à l'opposition pour le rejoindre dans le vote de ce texte. On va écouter le Premier ministre.
Après les élections régionales, avec le score du Front National, avec l'unité nationale qui, d'une certaine manière, s'est construite dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Sud-Est et dans l'Est. Après cela, chacun a parlé de nouveau d'unité nationale. Unité nationale contre le terrorisme, mais rassemblement aussi pour lutter contre le chômage. Et on oublie très vite ces bonnes résolutions. On oublie très vite ce que les Français attendent de nous, que nous soyons capables de dépasser les clivages traditionnels. Eh bien voilà, sur ce texte, moi j'en appelle là aussi à un débat serein, intelligent, qui permette de dépasser les clivages.
Donc vous lui dites banco à Manuel Valls, Union Nationale ?
Comme pour la lutte contre le chômage, moi les choses soient très claires. Si l'État peut m'aider dans ma mission à la tête de la région, je me moque de la couleur politique du gouvernement. Quand je vais demain voir la ministre du Travail, vous inquiétez pas, en ressortant, je ne serai pas devenu socialiste et elle ne sera certainement pas devenue gaulliste. Mais en attendant, il est vrai que nos concitoyens, eux, se disent, quand on est dans les difficultés, si des choses vont dans le sens de l'intérêt général, arrêtez de
vous
battre.
Donc vous appelez votre arrêtez camp à voter la loi El Khomri.
Oui, enfin, vous savez, ils n'ont pas besoin de moi au niveau national pour savoir ce qu'ils doivent faire. Les parlementaires sont aussi assez grands, mais en tout cas, en ce qui me concerne, même si elle n'est pas parfaite parce qu'il n'y a pas assez d'avancée, notamment pour les ouvriers, je voterai ce texte, je serai prêt à le voter.
Christophe Jacubici.
Et ça ne vous ennuie pas de permettre à François Hollande d'adopter un texte qu'il ne pourrait pas faire adopter par sa propre majorité ?
Je ne sais pas comment s'écrira l'avenir de ce texte. Je ne sais pas. Est-ce que ce texte peut devenir un peu comme un nouveau CPE ? Est-ce que ça finira avec du 49-3 ? Est-ce qu'il sera au final complètement déshabillé aux voteurs l'État ? Je n'en sais rien, je ne suis pas devin.
Vous parliez
Mais je sais aussi une chose. Je sais aussi une chose, c'est que des textes aussi importants que ceux-là, ils doivent être clairement présentés lors de l'élection présidentielle, pour que les Français, en toute connaissance de cause, puissent se dire « nous prenons ce projet ou nous ne le prenons pas ». Et surtout, des textes comme ceux-là doivent être mis en œuvre tout
s'ils
de
n'ont
suite,
pas été,
et pas 3 ans et demi, 4 ans.
Et Xavier Bertrand, s'ils n'ont pas été présentés en début de campagne et que ce n'était pas un engagement, faut-il un référendum sur la loi El Khomri ?
Non, je pense que sur un sujet comme celui-ci, si un référendum sur la loi El Khomri, ça s'appelle une primaire à gauche, si je peux me permettre. Parce que ceux qui demandent le référendum, c'est tout simplement pour ou contre François Hollande. Il y aura une élection présidentielle bientôt. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'en définitive, des réformes aussi importantes que celle-ci doivent être votées en début. C'est d'ailleurs un mal français. Regardez, même en ce qui nous concerne...
La TVA sociale, que vous avez adoptée en 2012,
on l'a adoptée à la fin du quinquennat, nous aurions dû le faire avant. Des réformes comme celle-ci sont des réformes de modernisation du pays qui libèrent l'énergie.
Xavier Bertrand, vous êtes en train de poignarder la loi, parce que vous dites en gros, il est trop tard pour une loi de ce type.
Je n'ai pas dit qu'il est trop tard, il vaut mieux maintenant, il vaut mieux ce texte-là, mais l'idéal, ça serait d'avoir aussi des responsables politiques qui ne se fassent pas élire sur un mensonge et qui se fassent élire sur un projet clair avec les réformes dont le pays a vraiment besoin et aussi, si je peux me permettre, le savoir-faire pour conduire les réformes. C'est d'ailleurs l'inquiétude qui est mienne par rapport à la prochaine élection présidentielle. C'est, est-ce qu'on aura le courage de mener les réformes dont le pays a réellement besoin et est-ce qu'on aura le savoir-faire? Les réformes en France sont peut-être plus difficiles qu'ailleurs parce qu'on n'a pas forcément une grande habitude des réformes. Mais les Français, eux, ne sont pas conservateurs. Les Français savent que si les réformes ne sont pas conduites, ça finira mal, notamment pour leurs enfants. Ils pensent avant tout à leurs enfants. Mais ils aimeraient tout simplement que les réformes se fassent sans brutalité, mais qu'elles se fassent réellement et qu'elles soient en permanence équilibrées. Les Français sont attachés à cela.
Vous incarnez en partie, Xavier Bertrand, vous l'avez fait pendant votre campagne, la nécessité de se retrouver sur certains sujets, droite et gauche, pour gouverner ensemble. Vous venez de le dire notamment sur la loi El Khomri.
Mais sans confusion.
Non, sans confusion, mais justement, pour les Français, ça entraîne un petit peu de confusion. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire à la présidentielle prochaine? On voit que les programmes de la gauche sociale libérale, je ne parle pas des frondeurs, hein, et de la droite ne sont pas si différents. Au fond, pourquoi continuer à mettre en scène cette confrontation de droite-gauche alors qu'on voit bien que dans chaque camp, les lignes sont un peu floues?
Xavier Bertrand.
Ce que nous demandent nos concitoyens, et je le vois dans la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est d'être efficace. Efficace. Vous savez grosso modo les politiques ce qu'il faut faire, alors faites-le.
Pourquoi vous ne feriez pas ensemble si c'est plus efficace de le faire ensemble?
Excusez-moi. En ce qui me concerne, dans ma région, c'est exactement ce que je fais.
Il paraît que ça peut. Parce que des grandes coalitions sont encore possibles sur des projets, des coalitions de projets.
Des coalitions de projets en France, il y a en permanence non seulement parce qu'on est passé au quinquennat. Donc les élections reviennent très vite, trop vite. Qu'en plus, celui qui est élu n'a qu'une envie en tête, c'est de se représenter. Ça, c'est quelque chose qui vicie le système politique français. La deuxième chose, c'est que les partis politiques français...
C'est pour ça que vous réclamez un septennat.
Les partis politiques de gouvernement ne sont pas si unis et soudés que cela. Est-ce que le Parti socialiste, aujourd'hui, est totalement soudé? Bien sûr que non, entre ceux qui acceptent la mondialisation et ceux qui la refusent, et même dans ma famille politique.
Alors justement,
entre ceux qui placent le débat identitaire en premier et ceux qui pensent que la priorité pour nos concitoyens, c'est le débat économique, notamment sortir de ce chômage persistant, là aussi, il y a des vraies lignes de fracture.
Juste sur votre famille politique, avant la pause, une petite question. Est-ce que vous avez l'impression que la démarche est plutôt constructive, d'après ce que vous entendez dans le cadre de la primaire, les propositions qui sont faites, ou alors est-ce que vous avez l'impression qu'on est resté dans un fonctionnement ancien que vous critiquiez?
Fonctionnement ancien.
De toutes parts. Personne n'a, de votre côté, aujourd'hui, ne trouve grâce à vos yeux, j'allais vous dire, sur manière de faire de la politique et de converser avec le gouvernement.
Mais encore une fois, moi je ne veux donner de leçons à personne. J'ai été élu voilà 2 mois et je n'ai encore rien prouvé. Mais ce que je sens, ce que j'entends, c'est que les Français, eux, sont moins conservateurs et les Français ne veulent plus de ce climat de guerre civile. Chacun a ses références. Vous interrogez les Français...
De guerre civile politique, vous diriez?
Bien sûr. Que les politiques entretiennent eux-mêmes, bien souvent avec des mots, des injures, des insultes, parfois dans le même camp. Vous parliez tout à l'heure du coup de poignard, c'est plus au sein des mêmes familles politiques qu'ailleurs. Les Français, je pense que c'est d'eux que viendra la réussite de notre pays.
On va devoir juste s'arrêter, on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. On fait une pause, le flash d'information et on se retrouve juste après pour la suite du grand jury. Xavier Bertrand, à tout à l'heure.
Suite du grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Xavier Bertrand, président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Alors Xavier Bertrand, nous parlions dans la première partie de l'émission de la loi El Khomri. Vous nous disiez que vous y étiez favorable. Dans votre région, vous avez mis en place Proche Emploi, c'est-à-dire mettre en contact directement des chômeurs avec des organismes de formation pour leur trouver du travail. Vous aviez un objectif de 60 000 pour le mois de septembre. Est-ce que vous pouvez donner le premier chiffre? Est-ce que vous ne craignez pas de décevoir? C'est important, c'est un gros chiffre, 60 000.
J'en ai conscience. Pourquoi 60 000 d'ici fin septembre? C'est parce que nous avons à peu près 120 000 offres d'emploi qui trouvent pas preneur ou difficilement preneur dans la région, chaque année. Et nous sommes fixés cet objectif que déjà pour 1 sur 2, on puisse trouver une première solution. L'opération Proche Emploi, elle a commencé voilà quasiment un mois et demi maintenant. Nous avons plus de 5300 personnes, demandeurs d'emploi, qui nous ont déjà sollicités. Et nous avons à peu près 200 entreprises pour commencer. Là, on va augmenter la cadence avec les entrepreneurs pour les mettre en rapport. Mais attention, si vous mettez en rapport un chef d'entreprise qui cherche un chauffeur-livreur, un demandeur d'emploi chauffeur-livreur, il n'a pas besoin de la région, il n'a pas besoin de proche emploi. Il va passer par Pôle emploi ou alors par Le Bon Coin ou le bouche à oreille. Là où la région est totalement légitime pour mettre en place cette opération, c'est que c'est la région qui est compétente, qui finance les formations demandeurs d'emploi. Mais ce que je cherche à faire, c'est vraiment d'attribuer les formations en fonction des besoins des entreprises. C'est là toute la différence. Je ne prends pas les habitudes du passé, je prends les besoins des entreprises. Et nous allons même plus loin, c'est que nous le faisons bassin d'emploi par bassin d'emploi. Vous pouvez avoir, par exemple, sur le Montreuilois, près du Touquet, par exemple, ou près d'Ardelot, ou même Boulogne, quand vous avez des besoins de recrutement, principalement l'hôtellerie, des serveurs, la restauration. Dans d'autres endroits, ce sont des techniciens en maintenance industrielle. Il n'y a pas deux bassins d'emploi qui se ressemblent. Et si on n'a pas cette logique de sur-mesure, voilà pourquoi pendant trop longtemps, ça ne marchait pas.
C'est pour ça qu'ont été créées, il y a des années, des agences locales pour l'emploi. Donc théoriquement, ce travail-là, c'est quand même celui de Pôle emploi. Là, vous rajoutez une couche supplémentaire. Alors, c'est parce que Pôle emploi ne fait pas bien son travail?
Je ne suis pas en plus, je ne suis pas en place. À la place, je suis à côté. Et je ne joue pas sur les mots. Moi, je ne veux pas devenir le patron de Pôle emploi. Je sais pertinemment aujourd'hui que comme c'est la région qui finance les formations demandeurs d'emploi, je finance donc ces formations en fonction des besoins directement identifiés. En clair, nous mettons chaque année, la grande région met 261 millions d'euros. Sauf que je ne veux pas arroser le sable, je veux tout simplement être au maximum efficace et être pragmatique.
Eh bien, pour être efficace, vous devriez avoir peut-être en plus, vous, la région, le pilotage de Pôle emploi. Comme ça, vous auriez à la fois l'instrument et les ressources pour la formation.
Moi, je ne veux pas chercher à être efficace en deux ans. Je veux être efficace tout de suite. Voilà pourquoi, plutôt que de rentrer dans des débats philosophiques, alors on fait quoi de Pôle emploi? Qui veut être le patron?
Pas de privatisation de Pôle emploi, par exemple.
Là aussi, on est sûr qu'on fera mieux. Et qui fera l'indemnisation? Moi, je cherche, excusez-moi, en fonction de ce qui existe aujourd'hui, à être efficace tout de suite. Nous avons d'ores et déjà
des personnes qui ont été mises du travail. Est-ce que c'est efficace aujourd'hui, Pôle emploi?
Visiblement, il y a des résultats sur l'indemnisation. Tout le monde est indemnisé, mais seulement sur le placement des demandeurs d'emploi, il y a mieux à faire. C'est pour ça, je ne vous le cache pas, que j'ai mis en place Proche Emploi avec les acteurs de la région. J'ai vice-présidente chargée de la formation, Karine Charbonnier, qui est totalement impliquée dans ce dispositif. Nombre de conseillers régionaux, en plus des agents de la région, qui ont tout de suite répondu présent, plusieurs centaines d'entre eux, sont engagés dans ce dispositif. On a les premiers résultats. Ce dispositif ne coûte rien.
Donc les 1300,
ne coûte rien.
Pour être très clair, ils ont un emploi ou une formation à ce stade?
Formation pour un emploi.
Donc vous gardez l'objectif de 60 000?
Bien sûr.
Pour le mois de septembre.
Vous inquiétez pas. Tout le monde l'a bien entendu. C'était même sur ce plateau que je l'avais indiqué. Je devrais rendre des comptes. Mais entendons-nous bien, il y a Proche Emploi, il y a aussi les nouveaux efforts que nous voulons faire pour l'apprentissage, une nouvelle politique de formation et ce que j'ai l'intention de demander au gouvernement.
Et l'apprentissage
Sur le plan qui a été annoncé par le président de la République. Si je me suis rendu à Matignon, voilà quelques semaines,
contrairement à Laurent Wauquiez,
à l'Élysée, c'était aussi pour poser des questions précises. Et le président de la République m'a dit, très clairement, que si nous étions engagés dans de nouvelles formations pour les demandeurs d'emploi, nous aurions de l'argent de l'État. Je pense que pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ce sont près de 100 millions d'euros sur l'ensemble du dispositif qui devrait être consacré à la région entre Pôle emploi et les services de la région. Cet argent-là, je l'utiliserai jusqu'au dernier euro, jusqu'au dernier centime pour de la formation des demandeurs d'emploi, mais des formations efficaces. Voilà ce que j'ai l'intention de demander.
Une question très précise sur l'apprentissage. Est-ce que vous êtes pour, Xavier Bertrand, bien qu'on baisse l'âge de l'apprentissage à 14 ans, qui est aujourd'hui à 16 ans? Est-ce que vous y êtes favorable?
Oui, mais pour le pré-apprentissage, pas pour tous les jeunes. Vous avez des jeunes qui n'ont pas trouvé leur voie. Il vaut mieux dans ces conditions-là qu'ils soient en pré-apprentissage. Mais tout dépend des jeunes. Encore une fois, du sur-mesure. Voilà ce que la politique nationale ne sait plus faire, le sur-mesure. Mais j'ai fait une proposition.
Est-ce que vous n'aviez pas fait du temps où vous étiez responsable aussi?
Non, on s'était engagé dans le pré-apprentissage. Excusez-moi, j'ai un peu de mémoire.
Donc,
Je vais juste plus loin. J'ai demandé une chose très précise au président de la République et au Premier ministre. Je leur ai dit, la mesure que je vais vous proposer ne coûte pas un euro. Je vous demande, à titre expérimental, si vous voulez, la même réglementation pour un apprenti et un salarié, quel que soit l'âge. Je vous demande juste ça. Sur un an ou sur deux ans, testez dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Parce que la région va faire des efforts plus importants sur le coût de l'apprentissage. Nous allons augmenter la prime d'apprentissage. Nous allons aussi, j'ai demandé à la ministre de l'Éducation nationale, de donner une instruction très claire pour que dans tous les lycées de la région, nous puissions avoir des chefs d'entreprise, des salariés du privé qui viennent expliquer les métiers et de pouvoir justement mieux informer, mieux orienter les jeunes. Mais il me manque une chose,
oui.
C'est qu'en France aujourd'hui, si vous voulez être couvreur, et que vous êtes apprenti, c'est le seul pays où vous serez obligé de rester au sol pour apprendre à être couvreur, parce que la réglementation est stupide. Et vous savez pourquoi? On ne fait pas confiance aux chefs d'entreprise en France.
On a l'impression que vous êtes entendu par le gouvernement. Vous vous sentez entendu par le gouvernement dans vos revendications?
J'attends les actes maintenant. Vous savez, c'est l'avantage de connaître l'autre côté de la barrière. Le Premier ministre m'a dit qu'il était même d'accord. Maintenant, j'attends des actes. Ça fait maintenant quelques semaines. Je ne suis pas d'une nature impatiente, mais si on veut être efficace maintenant... C'est maintenant qu'il faut me donner le feu vert.
Sur la dégressivité des allocations chômage, Guillaume Roquette, peut-être.
Oui, peut-être. Et est-ce que cette dégressivité est nécessaire pour inciter les gens à retrouver un emploi? Vous nous dites qu'il y a 120 000 emplois non pourvus dans une région où difficilement pourvus dans une région où il y a 13% de chômeurs. Est-ce que c'est juste dû à un problème d'adaptation et de qualification, ou est-ce qu'il y a des gens qui abusent du système et qui devraient travailler et qui ne travaillent pas?
Si vous voulez vraiment faire reculer le chômage, vraiment, en France, il faut en même temps agir sur le code du travail, sur le coût du travail. Je suis un militant de la TVA sociale. Et il faut agir aussi sur le marché du travail. Les trois en même temps. Et en essayant aussi des solutions nouvelles. La région Nord-Pas-de-Calais et Picardie est candidate pour l'expérimentation avec ATD Carmonde, territoire zéro chômeur.
Mais Ma question, c'était...
Est-ce qu'il faut agir aussi sur l'indemnisation du
chômage? Ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Mais je vais vous expliquer que ce n'est pas une mesure seulement qui réglera les choses. J'ai passé l'âge de penser aussi qu'une baguette magique réglerait ça. Zéro chômeur. Par exemple, un chômeur est indemnisé en moyenne 15 000 euros par an. Plutôt que de l'indemniser 15 000 euros par an. Et si on mettait cet argent pour permettre à quelqu'un de le recruter? Vous ne croyez pas que ça vaut la peine? Moi, je pense que si. Pour l'instant, c'est une expérimentation, je suis candidat. Maintenant, il faudrait indemniser en fonction d'une formation, pas seulement pour remplacer le revenu précédent, d'une formation. Et est-ce qu'il faudra la dégressivité? Elle existe d'ailleurs, au bout de 2 ans. La faire plutôt certainement, mais pas tant que nous n'avons pas connu une reprise économique, tant que nous n'avons pas connu une décrue du chômage.
Donc,
ou alors,
tout de suite.
Assumer les choses... de dire que vous allez faire des économies sur le dos des chômeurs actuels. Que vous contrôliez moins, c'est une chose, mais même les mesures que je propose, proche emploi ou autre, visent à faire reculer le chômage, pas à l'effacer. Dans un nouveau système, vous indemnisez pour une formation, et dans ces conditions-là, vous ne pourrez pas dire non, ni à la formation, ni à l'emploi qu'il y aura derrière la formation. Vous devrez, dans ces conditions-là, revoir les conditions d'indemnisation, c'est vrai. Mais si vous le faites tout de suite, maintenant, comme cela, dites tout de suite que vous faites des économies sur le dos des chômeurs.
C'est ce que disent certains dans votre camp, puisqu'ils parlent de dégressivité au bout d'un an.
Oui.
Dès 2017, ils arrivent aux responsabilités.
Qu'est-ce qu'ils proposent pour ramener vers l'emploi?
Vous êtes moins
libéral.
C'est
cette partie-là qui manque.
Vous êtes moins libéral que la majorité des dirigeants de droite.
Bon, écoutez, je crois profondément à la liberté économique. Je dis souvent, ce ne sont pas les hommes et les femmes politiques qui créent des emplois. Ce sont les entrepreneurs. Nous avons décidé comme première mesure, votée le 11 février par le nouveau Conseil régional, la baisse des charges sociales patronales. Alors je suis quoi? Je suis quelqu'un qui cherche à être efficace, et qui est profondément pragmatique, et qui ne veut pas se faire bloquer par la bureaucratie, par le « c'est pas possible ». Vous n'avez pas le droit. Je cherche des solutions. De la même façon, nous avons mis en place, je dis ça devant Gérald Darmanin qui est chargé de piloter cette politique, une aide au transport pour ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler. Les éternels oubliés. Eh bien, nous mettons cela en place. Est-ce que ça, c'est interventionniste? Peut-être. Sauf que toutes ces sommes-là, monsieur Roquette, toutes ces sommes-là, plusieurs dizaines de millions d'euros, je vais les retrouver dans l'économie régionale. Cet argent du Conseil régional, il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Cet argent que les entreprises vont avoir... que les salariés qui utilisent leur voiture vont avoir, je vais retrouver dans l'économie régionale.
Xavier Bertrand, on va passer à un autre sujet qui vous concerne directement, les migrants. Il y a eu une décision de la justice d'évacuer partiellement le camp de Calais cette semaine. Est-ce que cette décision vous satisfait? Il y a un mois de délai qui est donné pour cette évacuation. Est-ce que ça vous semble long?
Écoutez, cette mesure, je la demandais comme Natacha Bouchard, comme les habitants du Calaisis depuis bien longtemps. Le gouvernement a pris sa décision. Nous avons rencontré à différentes reprises Bernard Cazeneuve. Il s'y était engagé, il l'a fait. Il l'a fait. Et nous sommes sur la même ligne que le gouvernement. Encore une fois, diront certains, tout simplement parce que c'est...
Vous êtes en face sur beaucoup de dossiers avec
le gouvernement. C'est l'intérêt général. Oui, mais j'attends maintenant que Jean-Jacques Urvoas, qui m'a pris cet engagement, se rende à Calais et qu'il donne des consignes d'extrême sévérité, d'extrême fermeté à la justice. Il paraît qu'on ne commande pas une décision de justice, mais quand même... celle qui vient d'être rendue voilà quelques jours, qui n'a rien à voir avec le démantèlement de la jungle sud. Vous avez des no-borders. Les no-borders sont des extrémistes, des gens dangereux, qui attisent les difficultés, qui cherchent à allumer le feu, qui poussent certains migrants, pas tous, à se jeter contre les forces de l'ordre, à envahir le port ou Eurotunnel.
Qu'est-ce que vous demandez alors?
Quand vous pensez que ceux-là, qui sont montés à bord d'un ferry, ont été condamnés pour deux d'entre eux à une amende avec sursis de 300 euros. On veut qu'il y ait un effet dissuasif ou pas? Moi, je le souhaite. Et là, le ministère de la Justice doit veiller à ce qu'il y ait des réquisitions beaucoup plus fortes et qu'ensuite, ceux qui ne respectent pas la loi fassent l'objet d'une reconduite à la frontière. Les condamnations, ce sont les magistrats. Je connais l'indépendance du parquet, soit. Mais les réquisitions et l'application des sanctions doivent être beaucoup plus fermes. Sur la jungle sud, c'est un début. C'est un début. Terme, je ne veux pas qu'on améliore la situation. À terme, je veux pour les habitants du Calaisie un retour à la normale. Un retour à la normale. Ils y ont droit, les habitants du Calaisie. Et au final, je veux surtout que l'on n'ait pas un jour à intervenir comme il le faut, parce qu'on aura connu un drame avec des habitants du Calaisie exaspérés. Je demande au président de la République de venir sur place se rendre compte. Je demande au gouvernement, et pas seulement au ministre de l'Intérieur, de prendre toute la mesure de ce qui se vit à Calais, au ministre de l'Économie et des Finances, de prendre en compte la situation des habitants, des commerçants du Calaisie. Ils connaissent la crise, mais en plus, ils ont moins de clients, moins de touristes, et ils n'arrivent plus à payer leurs charges. Leur demande est légitime, ils ne demandent pas un cadeau, ils demandent un moratoire pour régler plus tard ce qu'ils doivent. Je me fais leur porte-parole comme Natacha Bouchard, il faut que le gouvernement entende cela.
Vous avez fait beaucoup d'émoi outre-Manche en proposant de redéplacer la frontière de Calais à Douvres, puisque depuis le traité de 2008, effectivement, nous sommes la frontière britannique. Vous renouvelez cette proposition, il faut qu'on envoie les migrants directement à Douvres et que les Anglais gèrent le problème de ces migrants qui demandent à aller en Angleterre.
Oui, et pourquoi je demande cela ? Parce que je voudrais que les Anglais se bougent et bougent leur réglementation. Pourquoi nous avons autant de migrants à Calais ? Ça n'est pas pour rester à Calais qu'ils viennent. C'est tout simplement pour passer en Angleterre. Et pourquoi ? Parce qu'en Angleterre, la réglementation est beaucoup plus facile pour des clandestins pour travailler. Ils sont payés avec un lance-pierre. Certains employeurs anglais ne payent pas de charges. Et donc, ils savent qu'ils trouveront du boulot en Angleterre. Tant que les Anglais ne changent pas leurs règles sur le droit du travail, il y aura toujours des migrants à Calais et, pardonnez-moi, et peut-être à Cherbourg, à Dieppe, à Ouistreham, ou alors à Zeebruges. C'est les propos que j'ai tenus à l'ambassadeur d'Angleterre. Je ne veux pas la guerre avec les Anglais. Je veux qu'ils bougent la réglementation, ou alors, je le dis, il faudra bouger à nouveau la
frontière. On peut dénoncer ce traité ?
Bien sûr. Ça n'est pas directement lié au Brexit, mais entendons-nous bien. Si les Anglais décident de sortir de l'Union européenne, dans ces cas-là, aussitôt, il faudra dénoncer les accords du Touquet. Et si je peux me permettre, le Premier ministre, David Cameron, a lui-même indiqué que s'il y avait Brexit, le camp, aujourd'hui la jungle de Calais, qui ne devra pas rester à Calais, elle irait dans ces cas-là aussitôt à Douvres.
Vous souhaitez que les Anglais sortent de l'Europe ou pas, Xavier Bertrand ?
Non. Non, parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup à faire avec l'Angleterre, que notre région Nord-Pas-de-Calais-Picardie a notamment un grand rôle à jouer avec ce lien transmanche pour le tourisme, mais aussi, excusez-moi, pour ce lien routier. Les camionneurs, nos chauffeurs routiers, aujourd'hui, sont parmi les plus pénalisés. Ils ont parfois peur pour leur sécurité avec ce qui se passe. Calais-Douvres, c'est le point le plus facile, le plus court pour se rendre en Angleterre. Mais c'est aussi bon pour l'économie. La région va investir énormément sur le port de Boulogne-Calais, Calais-Port 2015. Mais derrière, je veux conforter ce lien économique. Et je sais pertinemment que pour ça, ça serait stupide d'être en guerre avec les Anglais. Ce que je note quand même sur l'Angleterre, c'est que quand ils font un bras de fer, ils le gagnent. Et j'aimerais aussi que la France se mette un peu plus à faire un bras de fer au niveau européen quand il le faut. C'est vrai sur la question agricole, je le disais tout à l'heure. Ça va être vrai sur la question des migrants, parce que le problème de Calais, c'est Calais même. Ce sont les Anglais, mais c'est bien avant Calais, aux frontières de l'Europe. Et sur ces enjeux-là, j'ai un peu la nostalgie de cette époque où le général de Gaulle avait pratiqué la politique de la chaise vide. C'est pas le meilleur système. Mais si à un moment donné, l'Europe ne comprend pas qu'elle est en danger de mort, alors que l'Europe, on en a besoin. J'ai voté non à Maastricht et je suis européen.
Mais vous avez été au traité de Lisbonne.
Bien sûr.
Est-ce que vous le regrettez
Non, parce que je pensais que les choses étaient engagées. Je regrette surtout qu'à Maastricht, ça se jouait de si peu. Et que même le talent de Philippe Séguin n'est pas suffi à inverser cette tendance du résultat. L'Europe ne se serait pas construite de la même façon. Et aujourd'hui, je le dis, la France doit savoir engager les bras de fer ou alors réveiller les consciences nationales qui ont tendance à prendre le
pas sur l'Europe. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va demander à l'Europe ? Qu'est-ce qui justifierait une politique de la chaise vide ? La fin des accords de Schengen, le rétablissement des frontières, comme on l'a vu entre la Belgique et la France ?
À quelles frontières pensez-vous ? Aux frontières nationales ?
Oui, parce qu'en principe, les autres sont déjà protégés.
Ça serait une erreur. Pour des raisons, certains vous diront économiques, des dizaines de milliards d'euros qui seraient en jeu. On le voit bien.
Les Anglais ont des frontières à leur...
Oui, c'est une île aussi. Ça change un peu la nature des choses.
Mais ça n'empêche pas les échanges économiques importants.
Mais ça change quand même beaucoup les échanges financiers.
Mais si l'Europe n'arrive pas à protéger ses frontières extérieures, notamment des migrants, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, c'est là l'enjeu. Si on commence à dire qu'on ne peut pas protéger les frontières extérieures, c'est qu'on a abdiqué. Et dans ces cas-là, il faut arrêter de faire de la politique. L'enjeu premier, c'est de protéger les frontières extérieures.
Mais vous voyez bien qu'on n'y arrive pas. Regardez ce qui se passe en Grèce. C'est pour ça qu'il y a des pays européens, comme l'Autriche, comme la Belgique, comme la Hongrie, qui disent, puisque Schengen ne marche pas, nous remontons des frontières pour nous protéger, nous, chaque pays.
Avec Schengen, on a mis la charrue avant les bœufs. Avec Schengen, on a dit, on fait disparaître les frontières intérieures, mais on a oublié qu'il y avait, dans le principe de Schengen, la protection des frontières extérieures de l'Europe. Encore une fois, comme pour l'euro, on a été trop vite et on n'a pas respecté le principe de cohérence. Si vous supprimez les frontières, enfin, si vous remettez les frontières intérieures, il est trop tard. N'allez pas croire que vous allez faire des lignes Maginot, que vous allez faire des murs partout dans toute l'Europe. C'est les frontières extérieures, le sommet qui va s'ouvrir. Est un sommet clé, pas seulement sur la question des migrants, pas seulement sur la question qui me préoccupe de Calais,
du
Calaisie
ou
de Grande-Synthe. C'est tout simplement l'avenir de l'Europe qui est en jeu. Et donc, nous allons avoir M. Erdogan. Je pense qu'il faut trouver avec M. Erdogan une vraie solution. Il participera au sommet. Mm-hmm. Une vraie solution. Je pense que l'Europe doit mettre de l'argent sur la table, 3 milliards d'euros, peut-être même 5 s'il le faut, pour que les migrants puissent être accueillis et rester en Turquie, dans des conditions totalement décentes, parce que si je peux me permettre, s'ils sont en Turquie, ils retourneront un jour dans leur pays. S'ils sont à des milliers de kilomètres de leur pays, jamais ils ne retourneront dans leur pays, même quand il y aura la paix. Mais attention, j'ai pour moi une ligne rouge, infranchissable. Si à l'occasion de cette discussion avec la Turquie vient sur la table la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, c'est niette. Donc parce qu'il ne s'agit pas de repousser un risque imminent pour avoir un risque encore plus grand dans les années qui viennent si nous avions l'adhésion de la Turquie. Donc l'accord avec la Turquie, oui, pas au prix de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Si ceci ne se produit pas, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est que nous serons obligés d'avoir un blocus maritime au large de la Turquie et de la Libye, ce que j'appelle de mes voeux depuis le mois d'octobre 2014. Octobre 2014. Nous serons obligés d'avoir ce blocus. Parce qu'autrement, d'une façon ou d'une autre, certains voudront isoler la Grèce du reste de l'Europe et on aura une situation humanitaire terrible. Donc soit nous avons un accord, soit il faudra se résoudre à voir ce que je demande depuis des mois, que des dizaines de parlementaires avaient signé, un blocus maritime pour, pas comme Mare Nostrum à l'époque, prendre les bateaux de migrants avec les passeurs pour les ramener en Europe, mais tout simplement pour éviter qu'ils ne prennent la mer, notamment au départ de la Libye. Nous sommes loin d'en avoir fini avec les situations de guerre. C'est maintenant qu'il faut agir.
Si ça ne marche pas, si les Anglais sortent, si beaucoup de pays européens remettent des frontières, est-ce qu'il y a un plan B avec moins de pays, ou est-ce que notre seule issue, c'est de continuer l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui ?
Une réponse très courte.
C'est un peu défaitiste, votre présentation. Parce que moi, je reste persuadé que les frontières extérieures de l'Europe, c'est encore possible. Il est tard, je sais, mais dans la vie comme dans la vie politique, il n'est jamais trop tard. C'est ça le véritable enjeu. Parce qu'autrement, vous savez, que vous soyez autant ou un peu moins, si c'est pour avoir des frontières, c'est qu'on aura totalement échoué. Rétablir des frontières, c'est tout à fait possible, Schengen le permet. Mais si c'est pour retrouver toutes nos frontières, ne croyez pas que vous n'aurez pas des migrants qui viendront.
Xavier Bertrand, on va accueillir Benoît Galeret, mais juste une petite question. La Belgique ferme ses frontières, est-ce que ça vous choque ?
Ça ne me surprend pas, parce qu'ils ont compris, et moi c'est mon rôle en tant que président de région, de faire en sorte que la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui porte ce fardeau, ces difficultés depuis des années, elle ne peut plus faire et qu'ils vont se déplacer à Zeebrugge. Ça, je le sais pertinemment. Mais excusez-moi, ma responsabilité, c'est avant tout de m'occuper de la situation et de l'avenir des habitants de ma grande région.
Alors Benoît Galeret, vous nous rejoignez. Donc vous avez scruté les réseaux sociaux, et en particulier Twitter. Que disent les tweetos à Xavier Bertrand?
Déjà, Judith Weintraub du Figaro est soulagée, hein, vous entendant dire que vous ne voulez pas faire la guerre avec l'Angleterre. Elle pousse un grand ouf sur cette histoire. Beaucoup de réactions aussi à votre position sur Notre-Dame-des-Landes. Vous dites que l'état de droit ne peut pas continuer à être bafoué de cette manière. Vanden vous demande si l'écologie, elle, a le droit d'être bafouée. En fait, beaucoup soulignent vos convergences de vues avec le gouvernement, en fait, dit Florence. Si on vous écoute, l'absence de contrat unique dont vous nous avez parlé aujourd'hui, c'est la seule différence à droite avec le projet de loi El Khomri.
Et le retour des heures sup défiscalisées, ça j'y tiens. Dur comme fer.
En fait, Albert, encore plus provoque, dit qu'on lui dit dans son oreillette que votre carte du PS vous attend à Solferino. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont eux qui sont de plus en plus à droite? Ou finalement, il se passe quelque chose en France
Peut-être que dans leurs propos, dans leur attitude, mais dans leurs actes, où est le principe de liberté? Où est la France qui travaille? Où est la valeur travail? Je ne la vois pas suffisamment respectée par ce gouvernement.
Vous avez dit que vous ne participez pas aux primaires de la droite, vous participez aux primaires de la gauche, finalement.
Non, en définitive, j'ai parfois un peu des regrets. Non, mais un regret de voir que les ouvriers, la France du travail, elle est absolument oubliée par les candidats à la primaire. On dirait que c'est le cadet de leurs soucis. On parle des entrepreneurs, c'est normal, ce sont eux qui créent du travail. On parle de ceux qui n'ont pas de travail, mais ceux qui travaillent, personne n'en parle.
Ils n'ont pas de sensibilité sociale.
C'est pas seulement une sensibilité sociale. Le social, vous savez, je crois beaucoup à la question du partage des richesses, mais pour ça, il faut créer des richesses. Et on crée des richesses par le travail. J'ai fait toute la campagne sur la région au travail, la valeur travail. Mais moi, je n'oublierai pas ceux qui travaillent. Parce que ceux qui ont le sentiment aujourd'hui d'être oubliés de la société se disent plus jamais on ne réussira à faire partie à part entière de la société. Ceux qui gagnent très bien leur vie, payent beaucoup d'impôts, ont le sentiment qu'ils font beaucoup d'efforts. Mais entre les deux, c'est la peur du déclassement pour soi et pour ses enfants. Et en ce qui me concerne, si je peux me permettre, à la tête de la région, c'est comme si j'étais à la tête, pardonnez-moi, d'une entreprise où j'ai 9000 salariés, j'ai 6 millions de clients ou d'actionnaires. Et moi, je dois absolument me penser à leur avenir. Et c'est leur avenir qui m'intéresse. Tout le reste, c'est du blabla.
C'est-à-dire,
c'est leur avenir qui m'intéresse.
Vous nous parlez de la primaire. Est-ce que vous dites, je regrette peut-être, que votre décision est irrévocable de ne pas aller à la primaire de la droite? D'accord. Et quand est-ce que vous prendrez votre décision sur le candidat que vous soutiendrez?
Plus tard, pas maintenant, pour une simple et bonne raison, c'est que pour l'instant, j'ai le sentiment que beaucoup se regardent, beaucoup s'épient. Oui. J'ai un peu peur qu'il y ait beaucoup de castagnes dans cette primaire. Et je le dis aussi clairement, si nous voulons que cette primaire soit vraiment utile, il va falloir aussi qu'on soit avec un vrai débat de fond, qu'on y voit clair sur les projets et que ce ne soit pas un combat de personnes. Si c'est le cas, on peut avoir beaucoup d'électeurs et ce sera une totale réussite.
C'est mal parti.
En ce qui me concerne, je suis sorti de la primaire, il n'est pas question un seul instant. Ce que je disais n'était pas une forme de plaisanterie. Le regret, c'est de voir que ce thème des ouvriers, de la France qui travaille, est complètement absent pour l'instant des différents
Benoît
projets.
Galeret.
Vous aviez un soutien important. Hein. Nico dit que vous êtes clair, sans langue de bois, efficace, il a tout compris. Vous mériteriez un poste à ampleur nationale. Un autre vous demande, du coup, selon vous, en 2017, quel est le défi urgent auquel le nouveau président devra faire face et si c'est ce qui va guider votre choix?
L'emploi. L'emploi, mais attention, pensez aussi à ceux qui ont un emploi et qui ont vraiment le sentiment d'être totalement oubliés par les politiques.
Est-ce que vous serez ministre en 2017 si la droite revient au gouvernement? Est-ce que vous accepterez d'être ministre?
Non.
Est-ce que vous êtes... Alors, visiblement, vous êtes contre le non-cumul des mandats. Nicolas Sarkozy veut le rétablir. C'est une erreur. Est-ce que vous avez l'impression que Nicolas Sarkozy a les bonnes idées? Il est à la bonne place? Est-ce qu'il a encore le leader qu'il faut à l'opposition?
Écoutez, la question aujourd'hui, c'est de savoir qui sera celui qui sortira vainqueur de la primaire. On voit bien que la gestion des partis politiques aujourd'hui, c'est pas ce qui passionne les Français en premier.
Mais on dit très franchement, on dit que c'est Alain Juppé qui pourrait avoir vos faveurs, Xavier Bertrand. Est-ce que ça, c'est le cas? Jean-Pierre Raffarin vient d'annoncer son soutien. Vous avez peut-être vous avez plutôt une fibre qui ressemble à celle de Jean-Pierre Raffarin. Est-ce que ça veut dire que vous êtes dans cette mouvance-là juppéiste?
Alors, si vous dites cela, parce qu'Alain Juppé est venu me rendre visite à Calais.
Et Nicolas Sarkozy viendra jeudi vous voir. Je ne sais pas si vous le rencontrerez.
François Fillon, je le verrai, je crois, la semaine prochaine. La semaine d'après, il vient dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, si vous cherchez à savoir qui je soutiendrai en fonction des visites dans ma région,
c'est
grand plaisir à leur faire découvrir.
C'est vrai que vous êtes très cotisé, mais est-ce qu'Alain Juppé porte des combats qui vous touchent, qui vous sont plus sensibles que d'autres personnalités de droite?
Franchement, au moment où je vous parle, je n'ai pas fait mon choix. Je n'ai pas fait mon choix. Et je ferai vraiment mon choix en fonction de ce que je vous ai indiqué sur une nouvelle pratique politique. Le septennat non renouvelable, ça fait partie pour moi des choses très importantes. Le rétablissement d'un service national. Mmh. Je crois aussi à tout ce que l'on mettra en œuvre pour faire reculer le chômage. Enfin, vraiment, ça comptera. Plus qu'en définitive de savoir qui est venu ou pas venu me rendre visite.
Toute dernière question parce que l'émission s'achève. Est-ce que Lille, la ville de Lille, est un combat politique qui vous intéresserait ?
Non.
Vous ne vous présenterez pas en 2020 ?
Non.
Face à Martine Aubry. Christophe Jacubici, une dernière question.
Votre région, en quelques mois ?
Ah, alors ça, si vous êtes lycéen, je vous demande votre avis tout de suite. Parce que c'est une opération que nous avons lancée. Pourquoi ? Parce que ce sont les lycéens qui symbolisent l'avenir de la région et qu'on leur demande à eux leur avis. C'est Gérald Darmanin qui a eu cette idée. Oui. De demander l'avis des lycéens. La consultation est ouverte. Il faudra qu'on rende réponse pour la mi-mars au plus tard. On gardera certainement pendant un certain temps Nord-Pas-de-Calais-Picardie en dessous, en sous-titre, en quelque sorte. Mais je pense qu'il faut un nouveau nom. Et les lycéens sont plutôt passionnés par le fait qu'on leur demande leur avis.
On arrive au terme de cette émission. Merci Xavier Bertrand.
Merci.
C'était votre grand jury. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Elisabeth Martichoux à cette même place. L'émission est rediffusée ce soir de 18h30 à 19h30 sur LCI. Très bon dimanche à tous. À très bientôt.